Moi, j'avais peut-être une question en rapport avec ce qui a été dit, la première partie sur la notation. Quelque part, je m'imaginais, est-ce que vous posez un problème de notation? Est-ce que ça fait partie de votre démarche? Est-ce que ça vous arrive qu'un spectacle, par exemple, ce que vous avez fait, finalement, vous avez le passé à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une transmission comme ça qui pourrait s'opérer? Donc voilà, j'ai ça, puis j'avais une remarque à faire sur la notation, mais qui vient avant. Je me disais, c'est drôle, c'est vrai, il y a des gens qui commencent à aller vers la notation, donc peut-être les marionnettes, peut-être vous allez découvrir quelque chose. Et je voulais juste souligner qu'en musique, par exemple, on se pose le problème que la notation aussi a une complexité. C'est-à-dire qu'à force d'en faire, on complexifie tellement les choses qu'on ne sait plus où on va et on ne sait plus où on s'en sort. Et il semble qu'aujourd'hui, en musique, se pose une question de trouver aussi une notation. Donc, c'est pour dire que je dis pas que ça c'est au même niveau que les marionnettes qui vont chercher une notation, mais en musique également, bien qu'il y ait une histoire de la notation, bien qu'il y ait une notation qui existe depuis des centaines et des centaines d'années déjà, eh bien se pose un problème d'en redécouvrir une autre ou d'en trouver une autre qui soit un peu plus adaptée pour la musique d'aujourd'hui. Mais voilà, disons donc pour revenir, est-ce que vous avez vous trouvez cette problématique autour de la notation?
En fait, c'est vrai qu'on se pose la question à deux moments d'un parcours enfin de la vie d'un spectacle, au moment de la création, pour être tous sur le même langage quand on est tous autour d'une table, le scénographe. Les musiciens, les marionnettistes, à un moment, il faut qu'on transmette nos idées, il faut qu'on voilà, il faut qu'on réussisse à se passer des documents qui soient clairs pour tous. Et aussi au moment de la reprise d'un rôle, où c'est le grand moment où on se pose la question de la transmission de tous ces gestes. Alors, nous, en création, on travaille beaucoup avec des storyboards. On écrit vraiment, enfin, on dessine très précisément tout ce qui va se passer sur scène. Sur le dernier projet, il y avait un plancher qui devait se soulever, un radeau. Donc, on a essayé de découper les mouvements du radeau incliné, voilà, en hauteur maximale, en bas. Enfin, et c'était aussi en regard du texte, quelle est la position du radeau. Donc, on avait trouvé toute une forme de notation de ces positions du radeau, en fait, de la scénographie. Et bah, en écoutant la problématique de la notation pour la danse, il y a plein de choses qui se retrouvent quand même. Nous, on codifie pas à ce point-là, on va faire des croquis un peu dégribouillés, mais on essaye, on cherche un langage qui va pouvoir transmettre ça.
Peut-être aussi, il y a l'histoire de l'interprète qui est en marionnette. J'ai l'impression, comme ça, peut-être que je dis une grosse connerie, mais j'ai l'impression qu'il est très selon un spectacle a une histoire dans sa création, effectivement, et il y a ce souci d'avoir un langage commun, mais finalement, l'histoire qui est créée dans ce spectacle est différente selon les interprètes. Et les interprètes en marionnette sont très très différents. Donc du coup, de marquer une espèce de grammaire qui finalement est très différente selon qui va reprendre le rôle. Je pense, voilà, on a tous des spécificités particulières. Donc après, quelqu'un qui est très différent, qui va reprendre ce rôle, comment est-ce qu'on note cette différence? Comment est-ce que... voilà, c'est vrai que c'est une question. Moi, je sais pas si... Je pense que sur un langage commun, c'est très intéressant, très important. Sur toute l'histoire de la marionnette, je trouve très important. Mais sur nos créations, précisément, comme on crée avec... on crée pas des rôles, on crée avec les gens qui sont tous différents. Donc, voilà, on sait que quand on va travailler avec Pierrot Pépin, par exemple, c'est un trompettiste, mais aussi il fait du bugle, il fait du trombone, il fait de la conque, qui est du coquillage, il fait... Donc, l'idée de la création se construit avec ce qu'il sait faire lui. Retranscrire ça pour finalement, dans un changement de rôle, se retrouver avec un trompettiste qui fait ni conque ni bugle, voilà, C'est compliqué, je sais pas si je suis clair, mais pas trop.
C'est que je crois que la notation, pour moi, c'est tout simplement la naissance de l'écriture. Et là, on est dans une phase, dans un art qui se pratique soit par transmission traditionnelle, soit par le théâtre et essentiellement du texte, alors que là, visiblement, la notation se tourne autour de questions de mouvement et d'autres rapports. Donc il y a une question d'écriture, de composition, où le metteur en scène ne serait plus tellement celui qui prend du jeu d'acteur bâti sa mise en scène, mais qui va prévoir, qui va composer comme un musicien. En fait, on est sur des domaines de naissance d'écriture, plus que de notation.
Moi, un petit point par rapport à la composition en temps réel, justement, nous on n'a pas. On a un problème de notation, mais qui n'est pas de la notation de l'écrit, mais la notation de comment trouver des gestes qui puissent, de la façon la plus synthétique possible, générer auprès des performeurs donc une création ou l'orienter. Et donc en fait, le premier tableau que vous avez présenté au début à 14h, concernant la notation, il y avait les différentes disciplines. Alors nous, on est exactement dans ce rapport-là. Sauf que c'est pas pour le noter, pour l'écrire, mais pour pouvoir le faire en temps réel avec des gestes. Mais c'est exactement le même questionnement en fait qui est à l'origine de ça. Et après, on a la possibilité de noter les gestes qu'on va faire de façon chronologique, ce qui fait que ça va être assez synthétique. Je ne sais pas si j'ai été clair non plus. C'est pas grave. On s'appelle.
C'est une question qui est difficile. C'est pas clair.
Moi, par exemple, je ne note rien. C'est très difficile pour communiquer avec les camarades.
Et Alexandra.
Eh bien. Moi, c'est simple, le spectacle tourne autour de trois accords, donc pour la notation, ça a été assez facile. C'était une contrainte, voilà. Bon, ça passe parfois en mineur quand même, c'est la petite difficulté, mais c'est Do majeur, Fa majeur, Ré majeur, et mineur, non, mais c'est vrai. Hein. Voilà.
Donc.
C'est moi, je me suis mis cette contrainte. Puisqu'on est dans le tout petit, je me suis dit, bon, quand même, il faut que j'ai un accord de passage, alors je vais en faire trois. Mais oui, ça, je me la suis collée toute seule, celle-là. Et puis ça marche. Voilà. Et c'est vrai que les morceaux sont quasiment tous dans la même tonalité, mais dans des instruments différents. Et peut-être que ça lasse, je sais pas, il faudra demander à la fin du spectacle. Non, je blague. Mais ça fonctionne pas mal, en fait. Ouais, ça. Ça m'a amusé de faire ça. Et puis. Voilà.
Oui, ça s'adresse donc au sound painter. Non, mais c'est juste que c'est la deuxième fois que je voyais un spectacle et j'ai remarqué que les gestes étaient les mêmes entre les sound painters. Ça a l'air extrêmement précis et écrit, et j'ai appris aussi que vous les inventez lors de colloques ou de choses comme ça, c'est tout le temps en devenir, etc. Des signes se rajoutent, mais comment justement vous les transmettez? Est-ce que vous les dessinez par croquis? Est-ce que vous filmez justement? Comment vous écrivez, notez le geste qui doit être transmis de façon très précise entre les sandpapers?
C'est de la transmission orale à l'ancienne. C'est à moitié une blague, mais ça se fait beaucoup comme ça, justement. Mais sinon, c'est la vidéo. C'est quand même l'outil le plus efficace pour ça. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, sound painting, c'est un langage qui a été créé par un musicien américain qui s'appelle Walter Thompson dans les années 80. À une époque où, enfin, c'était toujours le cas d'ailleurs, où la préoccupation de la scène américaine est très sur comment créer de nouveaux outils de composition, On pense à Frank Zappa dans les années 70, plus récemment des gens comme John Zorn ou Butch Morris. Comment en temps réel on peut influer sur la matière qui est en train de se produire. Et Walter Thompson donc a créé ce langage et une des spécificités peut-être par rapport à d'autres approches, c'est qu'on peut vraiment parler de langage parce qu'il y a un vocabulaire et une grammaire, donc ça permet, comme dans n'importe quelle langue, avec 50 mots de vocabulaire, de faire des centaines de phrases. Donc ça, c'est une grande force. Et l'autre chose, c'est qu'il l'a diffusé, ce langage, et donc il l'a enseigné, donc, ce qui fait qu'il y a des gens un peu du monde entier maintenant qui le pratiquent. Il comporte au moins 800 signes aujourd'hui, et on en développe effectivement régulièrement, parce qu'on est confronté, on travaille avec la marionnette, moi j'ai eu la nécessité de créer des signes par rapport à ça, dont on rejoint le problème de la notation, d'une certaine façon. Et voilà, pour l'instant, la meilleure façon de transmettre ça, c'est la oralité et le signe lui-même, la vidéo. Le dessin marche assez bien, on le fait, mais il y a plein de choses qui sont plus difficiles à percevoir dedans. Avec l'avantage du dessin en revanche, mais comme pour toute notation, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu ici, un des gros avantages de la notation, c'est que ça laisse beaucoup plus de place à l'interprète aussi, par rapport à les vidéos qui, elles, ferment énormément, quoi. Est-ce que je peux poser une question, peut-être au... Moi, une question qui m'intéresse, c'est à quel moment, à partir de quel moment, un objet ou une machine animée, comme on a pu en voir là, à partir de quel moment, pour vous, enfin certains parmi vous qui êtes des spécialistes un peu de cet art-là, à partir de quel moment ça devient une marionnette? C'est quoi pour vous le critère? Est-ce que ça peut se dire, en deux phrases, en trois phrases? Est-ce qu'il y a trois critères?
Regard extérieur et enfin, même si j'ai pratiqué ou je, enfin voilà donc je n'ai plus de profession, mais en tant que programmateur, le langage je m'en fous, je vais te dire. C'est ok. Ce qui m'intéresse, c'est si l'utilisation de la musique aux marionnettes, au théâtre, ou de partout, ou des arts plastiques d'ailleurs, prend sens par rapport aux propos et l'émotion que ça me suscite. Andy Emler et Phil Soundpainting, ça me convient quand il en fait. Un autre ne me trouverait pas. D'ailleurs, on a vu deux exemples hier. Une chose qui fonctionnait et une chose qui ne fonctionnait pas, le matin et le soir. Hein. Donc on voit bien que ça ne suffit pas d'avoir un langage et un signe ou une matière pour que ça fonctionne. Donc, ça s'appuie sur autre chose. Donc moi, un objet de Schlemmer à Oscar Schlemmer qui mécanisait le théâtre complètement pour retirer toute forme d'expressivité à ce travail de Tomate, de choses une où ça me procure une émotion et l'objet devient un sens et me propose quelque chose et ça devient. Sur quoi ça reste un objet, point. Inanimé.
Ça, c'est une question sur laquelle je bosse pas mal en ce moment, vu que pour le portail des arts de la marionnette, on se demande où est-ce qu'on commence et jusqu'où ça va, qu'est-ce qu'on prend, c'est quoi notre corpus. Historiquement, la définition, c'était un objet animé par quelqu'un. C'est l'interaction entre une silhouette anthropomorphe, souvent à l'origine, et un acteur, un montreur, selon les différentes traditions. En fait, dans ce qu'on observe aujourd'hui, on est obligé d'étendre la définition, puisque comme on a pu le voir là, la notion d'animation, alors qu'à l'origine, grosso modo, il y avait quatre possibilités, au-dessus, en dessous, derrière et dedans, à peu près. Aujourd'hui, maintenant, il y a à distance, avec toutes les techniques de téléguidage, de programmation. Alors normalement, on excluait tout ce qui était automate de la marionnette. Aujourd'hui, on va plutôt être sur une définition de qu'est-ce qui fait sens dans l'interaction entre un objet et un humain. Et comme on a pu le voir, là, l'humain, c'est pas forcément l'animateur, le manipulateur, ça peut être le public. Et donc c'est la création de sens entre ces deux choses. Mais du coup, les limites, elles sont très floues maintenant, entre une installation plastique et un spectacle de marionnettes.
Est-ce que Tinguely, c'est la marionnette? Enfin, pour la limite avec les arts plastiques.
Qui se partagent un peu le. Enfin, il y a eu des recherches de substitution de marionnettes, parce qu'il y a plein d'artistes qui n'osent pas, ou veulent pas, ou ne se disent pas marionnettistes. Et il y a eu deux formules un peu. Il y a la branche allemande qui parle de théâtre de figure, où là, on met un peu de côté la dimension d'animation, c'est plus sur la présence d'un objet qui est là. Et puis il y a des gens, donc La Faille, je crois que ça a été le premier à utiliser cette expression, c'est le théâtre d'animation. Et la marionnette, elle est à cheval sur ces deux théories, plutôt d'un côté, plutôt de l'autre.
Après Raphaël, avec toutes ses recherches, etc., moi je vais être très bref. Pour moi, un objet devient, quand on rentre dans le symbolique, c'est ça. C'est là où il y a la transformation. Quand, des fois on a besoin de la scène, des fois on n'a pas tout ça, des fois on n'a pas toutes les lumières, etc. Mais c'est dans le symbolique. Tout ce, et le public aussi, bien sûr, rentre dans cette convention. Je ne sais pas si je déclare non plus, mais pour moi c'est ça.
Alors moi, je vais encore citer un texte que je devais te donner, Pierre, et j'ai oublié, j'y repensais que tout à l'heure. C'est Hubert Jappel qui dit qu'un objet, on croit qu'il vit parce qu'il bouge, et qu'en réalité, c'est pas parce qu'il bouge qu'il est vivant, mais parce qu'il pense. Et donc, une marionnette, c'est quelque chose d'inanimé, a priori, que quelqu'un bouge d'une manière ou d'une autre, mais pour faire croire au public qu'il pense. Et la pensée, c'est l'intention. Donc ça rejoint un peu votre propos. Mais voilà, et c'est vrai que cette pensée-là, moi je la fais beaucoup mienne, et puis toute la marionnette est là-dedans pour moi.
Sylvie, dernière intervention, après on va devoir conclure tout ce que vous voulez dire par rapport à
prolongement, je crois, simple prolongement. L'idée d'animation, c'est étymologiquement, ça fait référence à donner âme et donner du mouvement. Donc c'est entre l'idée de donner vie, pour donner vie, il faut insuffler une âme, et ça peut se faire simplement par cette idée de présomption de vie des objets ou par le mouvement. Enfin, il y a les deux, il faut les deux éléments, je crois, pour qu'il y ait marionnettisation. Alors après, c'est vrai que je me posais une question par rapport aux marionnettes de Michel Auzeret, par exemple, d'utiliser le terme de marionnette. C'est vrai que pour moi, ce serait plutôt des, je sais pas, ou des robots, ou des. Enfin, voilà, on peut gloser à l'infini sur. À partir du moment où il n'y a pas une manipulation directe, mais une manipulation à distance, comme chez Zaven Paré, qui parle aussi de marionnettes électroniques. Bon, voilà, c'est sûr qu'on. Je pense qu'on atteint des limites, mais peu importe. Comment ?
De quel côté est-on aligné ?
Oui, non, mais peu importe, voilà, peu importe. C'est une grande famille de. Grande famille de marionnettistes, mais quand on touche pas, je sais pas, ouais, ça reste une question pour moi. Ces figures qui ressemblent à des robots, c'est des moments où elles sont, elles peuvent quasiment pas s'animer toutes seules, ou c'est préenregistré, enfin voilà, où il n'y a pas de manipulation en direct, si j'ai bien compris. Il y a une intervention en direct. Mais alors, pardon.
Je suis pas marionnettiste, donc je ne veux pas défendre le truc, mais je veux juste dire qu'on a expliqué qu'il y avait plusieurs sortes de manipulation, soit en méta-manipulation, c'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui manipule, par exemple, grâce à un joystick, qui manipule des métadonnées, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement du joystick ne fait pas forcément un seul geste, mais plusieurs comportements. Il peut y avoir une programmation qui est aussi une sorte de manipulation, puisque c'est une programmation vivante par des programmations de comportement. Et voilà, déjà pas mal.
Ok, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à vous. On a Sidonie qui va nous proposer une petite conclusion d'une petite dizaine de minutes sur les deux jours, ce qu'elle a pu retirer de ça. Elle va prendre ma place. Nous, voilà.
Je vais conclure très rapidement parce qu'on a bien dépassé le planning. Non, pour résumer un petit peu ces deux jours, je trouve que ce qu'on a pu beaucoup entendre et qui est revenu sur la thématique de la marionnette et de la musique, c'était la question de ne pas être dans l'illustration, de ne pas être dans la superposition, et que un des deux arts n'avale pas l'autre, ne soit pas là juste comme décor de l'autre. Et il y a eu beaucoup cette crainte exprimée, je crois, à la fois hier, à la fois aujourd'hui. Et je trouve très bien qu'on termine en fait sur cette table ronde, parce qu'on peut voir qu'en fait la recherche, elle est là, quoi. Il y a des gens qui cherchent à aller au-delà, parce que bon, hier on était assez pessimistes, je crois. Donc finalement, d'entendre toutes ces initiatives, tous ces spectacles, de les voir et de voir ce qui se produit, c'est ça qui est finalement magnifique, parce qu'on peut voir que ces interactions entre musiciens et marionnettistes, elles se font, elles sont là, dans les compagnies, dans des compagnies qui sont composées de musiciens et de marionnettistes, et qui sont pas effectivement juste un marionnettiste qui va faire appel à un musicien pour illustrer ou pour faire... Et que le sens, il vient de là, quoi, je crois. Et que, voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire, en fait, après cette table ronde, parce que je trouve qu'elle conclut très bien ces deux jours, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que la création et la recherche sur cette création, elle est là aujourd'hui, et elle est dans ce que vous nous avez décrit, quoi, plus que dans tout le reste. Voilà.